parce qu'en fonction justement de toutes ces données, eh bien, on va avoir un agencement particulier au niveau de la chambre.
Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Feng Shui du podcast Vendéa, un numéro consacré à la chambre. Et pour cet épisode, je reçois Karine Mayol, notre experte Feng Shui de l'espace Equinergie, pour décrypter les principes du Feng Shui appliqués à la chambre, emplacement du lit, circulation de l'énergie, couleurs, objets à éviter, des conseils simples, concrets et faciles à mettre en place pour transformer votre chambre en véritable cocon ressourçant. Bonjour Karine.
Bonjour Nicolas.
À parler cette semaine de la chambre. Alors, c'est là où on se repose, c'est là où des choses intimes se passent, et on va essayer de comprendre comment l'espace de la chambre peut influencer le sommeil et sa vie affective aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'une chambre, justement pour commencer, une question toute simple, qu'est-ce qu'une chambre énergétiquement saine ?
Une chambre énergétiquement saine, c'est une chambre dans laquelle déjà on va avoir un sommeil récupérateur. Et là aussi encore, il va falloir définir qui dort dans la chambre. Est-ce qu'on est sur un adulte, un célibataire, un couple, un enfant ? Quel âge il a ? Parce qu'en fonction justement de toutes ces données, eh bien, on va avoir un agencement particulier au niveau de la chambre.
Si on prenait, on va prendre par exemple, étape par étape, un bébé par exemple.
Un bébé, eh bien, le bébé, quand il naît, il a besoin d'amour. Et il a besoin aussi d'une certaine stimulation pour pouvoir grandir. Donc, très concrètement, on va chercher déjà à positionner son couffin dans une orientation qui lui correspond. Ça va aider aussi au sommeil et ça va aider les parents.
Et comment on sait que ça lui correspond ?
Ça, c'est une méthode de calcul. Ça s'appelle le chiffre KUA, qui définit pour chaque personne quatre orientations qui lui sont favorables et une à éviter. Donc, on va aller chercher justement la bonne direction, la bonne orientation pour le couffin. On va ramener des objets vraiment au niveau du mur, voire même une frise. Parce que, en fait, là, lorsque l'on habille cette partie de l'espace, on va venir soutenir tout ce qui est émotionnel.
Avec une frise.
Il a besoin d'amour. Oui, par exemple. Tout ce qui va être vraiment central. On va aussi aller chercher des objets à forme, avec des formes. Des carrés, des ronds, ça va venir stimuler la vision de l'enfant. Le classique doudou, par exemple.
D'accord, le portique aussi.
Le portique qui va le stimuler. Et d'ailleurs, si on observe bien, le portique, c'est quelque chose qui se situe dans l'espace. Ben, pour être clair, en fait, on a le plafond, on a le sol et l'intermédiaire. Entre c'est cet intermédiaire-là qu'il faudra travailler. Et donc, le portique qui se situe dans cet intermédiaire.
Donc les portiques pour les bébés. Quand les enfants sont un peu plus âgés, on va dire, je ne sais pas, de 4 à 12 ans par exemple.
Alors, de 4 à 12 ans, là, on va ramener un bureau. Parce qu'à un moment donné, ils vont aller à l'école, nos chers enfants.
Et ils adorent ça en plus.
Donc, et ils adorent ça, oui, au début. Donc là, on va positionner le bureau dans une direction aussi qui correspond à l'enfant pour venir favoriser sa réflexion. Par contre, ce bureau, il serait intéressant de le plaquer contre un mur. Parce que, contrairement à quelqu'un qui a sa propre entreprise, un adulte, l'adulte où on préférera que le bureau ne soit pas plaqué contre un mur et soit dégagé à l'avant pour pouvoir avoir une vision sur l'avenir. Là, ce qui va être intéressant pour l'enfant, c'est vraiment de le couper en fait, de cette capacité à se projeter dans l'avenir. Dans la partie de foot avec les copains ou les jeux ou ce genre de choses, l'idée c'est vraiment qu'il soit focalisé sur le devoir à faire ici et maintenant.
Dès qu'on arrive à 12 ans, là ça y est, on est des grands, c'est l'adolescence qui commence, 12 ans, 18 ans, on va dire même un petit peu avant, hein, 12 ans, 16 ans, comment on peut agencer une chambre ?
Alors là, ça va être la montée en autonomie. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment le sanctuaire de l'enfant. Quand on a des enfants qui sont adolescents, c'est parfois un petit peu compliqué de rentrer dans leur chambre. C'est pas évident, mais finalement, c'est leur sanctuaire. C'est toujours aussi intéressant de recréer des secteurs, d'amener un effet un petit peu studio. Donc, le coin dodo, où on va être sur des matières plutôt douces qui vont favoriser des couleurs plutôt pastel qui vont favoriser le sommeil. le coin des études, parce que c'est important. Donc avec un bureau bien placé, avec tout ce qu'il faut en termes de livres, de PC, etc. Un coin musique, musique et je dirais peut-être multimédia, parce que clairement on a pas mal d'enfants qui peuvent s'intéresser à, je dirais, à des jeux ou ce genre de choses.
Justement, les écrans dans une chambre, pas feng shui.
Moi, je déconseille quand même. Je déconseille les écrans dans une chambre. Après, encore une fois, si ça fait partie de l'habitude, que ce soit des parents comme des enfants, c'est difficile de couper ce type d'habitude. Par contre, au moins les éteindre, couper le Wi-Fi, c'est des choses qui, la nuit, c'est des choses qui sont importantes.
À partir de 16 ans, on devient, là pour le coup, on rentre dans une autre phase. 16 ans, la majorité n'est pas très loin. Est-ce qu'il y a des changements à effectuer ou pas ?
Eh bien, ce qu'il peut y avoir comme changement à effectuer, c'est aussi de comprendre ce vers quoi l'enfant se dirige. Qu'est-ce qu'il a envie de faire dans sa vie ? Alors, c'est pas forcément que professionnel. Il peut y avoir les études, mais l'enfant peut aussi avoir envie de faire une césure ou un voyage ou ce genre de choses. Et c'est de ramener des choses autour de ce qu'il a envie de faire.
C'est lui qui décide, c'est l'adolescent qui décide. On ne peut pas arriver aujourd'hui...
Surtout de l'amener à sortir ce qu'il veut. La conversation est importante. De quoi tu as envie ? Qu'est-ce que tu veux faire ?
Alors ensuite...
Donc ça va favoriser l'échange.
C'est ce que j'allais dire, ça favorise l'échange. Et ensuite, évidemment, on évolue. Et quand on est adulte, il y a des questions qui se posent. C'est par exemple, comment... la tête de lit, tiens, par exemple. Prenons la tête de lit, pourquoi elle est importante et symbolique ?
Alors, la tête de lit, donc avoir la tête de lit plaquée contre un mur, c'est déjà important. C'est la mise en sécurité, c'est le soutien. C'est aussi l'orientation qui va être importante. Parce que je vous ai parlé de ces quatre orientations favorables. Donc, on en a une qui va venir soutenir la force globale des personnes. On va aller chercher à maintenir une certaine force, une certaine vitalité. On a une orientation qui va venir soutenir les relations. Donc, par exemple, un couple, ça peut être intéressant d'aller chercher l'orientation autour des relations. On a une orientation qui va venir soutenir la réflexion. En tout cas, on va éviter la direction qui est défavorable.
Et ça, on le sait grâce au calcul effectué grâce au Feng Shui.
Exactement.
Un miroir dans une chambre, est-ce que c'est bien ou pas ?
Alors, là, on peut toucher encore une idée reçue. J'ai souvent entendu dire qu'il ne fallait pas un miroir face à un lit parce que pour un couple, ça pouvait signifier adultère.
Très bien.
Bon, dans ma pratique, c'est pas du tout ce que je constate, hein, clairement. Ce qu'il y a derrière un miroir, c'est que le miroir, il va stimuler la vibration de la pièce. On va augmenter le taux vibratoire, on va augmenter l'énergie, en fait.
Merci pour le miroir. On a reçu une question sur les réseaux sociaux, c'est la page Facebook, hein, si je dis pas de bêtises, une question de Dominique qui nous écoute aux épaisses. Pour un couple, que révèle la chambre sur la relation des parents ?
Eh bien, justement, la chambre d'un couple, c'est, notamment pour les parents, c'est vraiment leur cocon, leur sanctuaire, c'est là où ils se retrouvent. C'est quelque chose véritablement à agencer avec cette... c'est quelque chose véritablement à agencer avec cette idée de cocon. Donc, il va être important déjà de voir comment vit le couple. Ça peut être un couple qui va avoir les mêmes horaires, ça peut être un couple qui ne va pas avoir les mêmes horaires. Là aussi, on peut avoir une forme d'idée reçue. Hein. Par exemple, il y a des couples qui ne dorment pas dans la même chambre. Et c'est OK.
C'était le cas de, si je ne dis pas de bêtises, de Thierry Ardisson d'ailleurs, hein, qui, avec son épouse, avait même carrément deux appartements différents.
Oui, et ils se retrouvaient que pour le bon. En fait, c'est leur façon de fonctionner et c'est OK.
Et pour un couple qui, pour le coup, dort dans le même lit, dans la même pièce, comment on peut agencer la pièce pour que tout se passe au mieux ?
Alors, on va aller chercher une orientation favorable pour les deux. pour les deux personnes qui, donc en termes de tête de lit, hein, déjà. Mmh. On va vraiment prêter attention à avoir une qualité de la literie très, très bonne. On va ramener des couleurs plutôt pastel. On va pouvoir travailler aussi avec luminaires, hein, des lampes sur pied, des luminaires avec des Kelvin plutôt chauds, c'est-à-dire des lumières très, très orangées, très douces. Mmh. Pourquoi pas ramener des rideaux d'ailleurs, qu'on ferme, des rideaux lourds, des rideaux en velours, pour ramener ce côté cocon.
J'espère qu'on a répondu à la question de Dominique. On se retrouve la semaine prochaine, Karine, pour parler de la cuisine.
Oui, avec plaisir.
Ça, c'est, paraît-il, ça, c'est vous qui l'avez écrit, le cœur battant de la maison. On verra pourquoi. Exactement. La semaine prochaine. Merci, Karine.
Merci à vous, Nicolas.